Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous, habitués de nos émissions, vous êtes peut-être familiers avec la voix de notre invité de ce jour, mais qui a une voix un peu modifiée par virus, quelque chose, et qui porte un masque, mais on devrait la reconnaître. C'est la pasteure Florence Blondon, et qui va nous parler ce matin de modèles masculins. Alors, bonjour Florence.
Bonjour Yolande, bonjour à tous les auditrices et les auditeurs.
Voilà, donc vous nous avez surpris, d'abord avec la voix, mais bon, ça on va s'y faire, mais vous nous avez surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Moi je m'attendais plutôt à une émission sur les femmes, parce que vous avez beaucoup travaillé sur les femmes de la Bible, et là, eh ben non, vous allez nous parler des hommes. Alors pourquoi d'abord ?
Oui, alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les femmes de la Bible parce que je pense qu'on a besoin de modèles auxquels on peut s'identifier et qu'il y a quand même des femmes extraordinaires dans la Bible. C'est assez étonnant sur un texte qui a été écrit dans un monde profondément patriarcal. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ces femmes et j'ai trouvé beaucoup de choses. Et puis je ne suis pas la seule à avoir travaillé sur les femmes de la Bible. Je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses. Mais je garde quand même un profond attachement à ces femmes de la Bible. Mais récemment, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont amené à me tourner vers les hommes. Et pas n'importe quels hommes. Donc,
d'abord, les hommes de la Bible.
Les hommes de la Bible. Mais voilà. Bon, je pense que c'est une réflexion à mettre aussi dans un monde plus vaste qui est aussi notre monde d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce que certains hommes de la Bible peuvent nous dire encore aujourd'hui ? Hommes mâles, hein, j'entends.
Oui.
Oui. Et donc, j'ai été profondément touchée par, je suis pas la seule, hein, par le procès de Mazan, de cet homme et de ces 50 hommes quand même.
Ouais.
Et j'étais absolument effarée d'entendre que finalement, la plupart ne reconnaissaient pas ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire que finalement, ils savent pas ce que c'est qu'un viol. Ils savent pas ce que c'est que se comporter correctement. Et là, je me suis interrogée sur notre société. Parce qu'en fait, s'ils en arrivent là, c'est aussi parce que la société leur a permis de penser ça. Et leur a permis de ne pas s'apercevoir qu'ils étaient en train de violer une femme. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, j'avais, depuis un certain temps, puisque j'ai été aumônier de prison dans les prisons de femmes, quand j'ai découvert que finalement il n'y avait même pas 5% de femmes en prison, je me suis interrogée quand même. Et là j'ai découvert en cherchant un peu, récemment, c'est un livre qui a déjà quelques années, un tout petit livre de Lucille Pétavin qui s'appelle « Le coût de la virilité ».
Et là vous avez des statistiques donc...
Ah oui, il y a des statistiques et des chiffres. Alors bon,
oui.
Elle le dit bien que ces chiffres, ça mériterait une thèse d'approfondir plus. Les chiffres, c'est quand même 96% des hommes qui sont en prison. Enfin, c'est des hommes.
Oui.
Bon, 80% des violences dans les établissements scolaires, c'est des garçons.
Mmh.
Je crois 80% à peu près des violences de la route grave, c'est des hommes. Enfin, tout. Et en fait, elle dit, mais tout ça, c'est non seulement c'est bien beau, mais je veux dire, c'est un coût énorme pour la société. Elle estime à peu près à 95 milliards. Donc c'est pas rien.
Et est-ce que c'est un phénomène propre, je suppose que c'est pas propre à la France, mais est-ce que c'est plus spécifique à la France ou est-ce que c'est réparti dans le monde, enfin bon, on va pas parler de l'Afghanistan ou des choses parce que là ça nous entraînerait trop loin, mais dans le monde occidental, c'est les mêmes chiffres.
Je pense que c'est oui, c'est vraiment alors non seulement c'est un constat, mais en plus ce coût est énorme et quand on voit les débats budgétaires qu'il peut y avoir en ce moment, on pourrait s'intéresser au pourquoi et essayer, bon à mon avis c'est tellement ancré dans notre culture qu'il faut un travail énorme pour en sortir, mais quand même je veux dire, c'est-à-dire que la justice, la police, les établissements pénitentiaires, tout ça, ça a un coût et ce coût, en gros, à 90% est généré, enfin, est le fait d'hommes.
Voilà. Oui, mais avant d'en venir sur les modèles qu'on trouve dans la Bible, est-ce que vous pensez que c'est possible de renverser la vapeur alors qu'on voit un retour du masculinisme, par exemple aux États-Unis, mais il n'y a pas que là.
Il n'y a pas que là, et puis je pense que les hommes résistent. Alors, bon, il faut reconnaître qu'il y a quand même eu beaucoup d'avancées actuellement, même s'il y a un retour. Ouais. Il y a quand même eu beaucoup d'avancées dans notre société par rapport à la place des femmes.
Oui.
Mais en fait, on y a des avancées sur la place des femmes à la place des hommes. On ne s'est pas interrogé, finalement, sur la place des hommes que les hommes pourraient prendre à la place des femmes.
Ah, vous pouvez expliquer ça.
Alors oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore parfait, hein, surtout en France. Il n'y a aucune femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Enfin, on a des femmes médecins, on a des femmes chercheurs, on a des femmes ingénieurs, même si tout ça est moindre. Bon, on a des femmes politiques, on n'a pas encore eu de présidente de la République, mais bon, il y a des femmes... il y a des femmes...
Partout.
Ça a beaucoup changé. Aussi, dans le ménage, dans la sphère privée, quand même, on s'aperçoit que les hommes, de plus en plus, participent,
même
si ce n'est pas égalité, s'occupent des enfants. Ouais. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même une progression par rapport à il y a 100 ans, par exemple. Mais bon, ça, c'est les femmes qui sont à la place des hommes. C'est très bien, hein,
je trouve ça très bien.
Mais finalement...
Mais l'autre aspect...
L'autre aspect, c'est que on a toujours, dans les métiers d'aide, c'est pratiquement que des femmes.
Oui.
Bon, il y a quelques hommes, mais pratiquement que des femmes.
Ouais.
Dans tous ces métiers, finalement, qui sont des métiers de service à la personne et tout, c'est surtout des femmes.
Ouais.
Et alors, d'une part, c'est parce que c'est pas très bien payé, c'est dévalorisé.
Oui, c'est la première
chose.
Et puis, c'est dévirilisant.
Voilà, c'est pas du tout viril d'aller s'occuper de...
Oui.
Voilà, donc je pense qu'on s'aperçoit que dans notre société, on est loin d'être dans une société égalitaire. J'aime pas trop le mot d'égalité, parce que je pense qu'il peut y avoir des différences. Mais en tout cas, il y a cette espèce de
cloisonnement.
Pas de cloisonnement, mais de charge sur les hommes et sur les femmes, sur les deux, qui font qu'on a l'impression qu'on est quand même encore obligé d'être dans certains secteurs, d'avoir un tel comportement. Et donc, on peut s'interroger sur la virilité.
Oui.
Alors, il y a 3 tomes. Donc, une histoire de la virilité, très intéressante, donc de l'Antiquité à nos jours. Bon, je ne vais pas développer là-dessus. Mais en tout cas,
Vous avez la référence, non, pour ceux qui sont intéressés?
Je pense que c'est Alain Corbin. C'est publié, je ne sais plus, Histoire de la virilité.
Bon,
vous tapez ça sur Google, on trouve très bien.
Ok.
Voilà. Et donc, il y a un chapitre qui est écrit par Arnaud Bobéro et qui dit, alors j'aime beaucoup, c'est « On ne naît pas viril, on le devient
».
Évidemment, ça fait référence à Simone de Beauvoir. Je pense que je suis même persuadée que tout ça vient essentiellement
de l'éducation,
de la société, de la pression sociale. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée aux femmes de la Bible, parce que je trouvais important que pour les filles et pour les garçons, on puisse s'identifier à ces femmes.
Ouais.
Mais est-ce que finalement, dans la Bible, il existe des modèles masculins positifs? Parce que des modèles masculins négatifs, on en a beaucoup parlé.
Ah oui, ça...
Et d'ailleurs, il y en a énormément.
Oui.
Et il y a un livre qui vient de sortir, ou qui va sortir, fait par la Fédération protestante sur les violences.
Eh bien, je l'ai là, d'ailleurs.
Donc, je vais vous lire le violent, qui s'appelle « Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme ».
Alors, je ne sais pas s'il est sorti déjà dans le grand public. Hein.
Bon, il ne va pas tarder.
Ça ne va pas tarder.
Ça ne va pas tarder.
Oui.
Je crois qu'il y a un lancement prévu.
Voilà, il y a un lancement prévu de... je ne sais plus quand, mais bon.
Voilà. Et donc, particulièrement...
Alors, dans ce livre, vous avez des statistiques à frémir. Hein.
Oui, à frémir. Mais pour en revenir à la Bible, il y a Valérie Duval-Pujol qui s'est vraiment intéressée à tous ces modèles de violence masculine, particulièrement les violences sexuelles, mais pas que. Et je me suis dit, finalement, on a beaucoup travaillé sur ces hommes et ces... Finalement, l'homme biblique n'est pas merveilleux. Hein. Donc,
non, voilà. Alors est-ce qu'on arrive à en trouver, alors ma question c'est, est-ce qu'on arrive à trouver des modèles masculins suffisamment, comment dirais-je moi, qui n'ont pas l'habitude de faire les mêmes choses que les autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas guerriers, qu'ils ne sont pas...
Voilà. Qui ne sont pas virils, qui ne sont pas forts, qui n'ont pas tout. Voilà, ce n'est pas des David qui partent à la guerre,
qui voient
une belle femme, ou...
Oui.
Voilà,
ou... Bah, alors, est-ce qu'on en trouve beaucoup ?
Bah, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns.
Alors, on va en parler, donc.
Voilà.
Alors, le premier, vous avez trouvé...
Alors, juste avant de venir, d'aller au premier, je voudrais revenir sur le début, sur la Genèse.
Oui.
Avec le moment où l'Adam, donc l'être humain en fait,
oui.
Est plongé dans la torpeur, il ressort de la torpeur, et Adam donc, nous dit, et voici, celle-là c'est la femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc Isha, parce qu'elle vient d'Ish. Alors, c'est très très intéressant ça, parce qu'en fait il est dans la torpeur, on ne sait pas d'où il vient.
Ouais.
Et d'un seul coup, il inverse la réalité des faits. Parce qu'en fait, on sait bien maintenant que et l'homme et la femme sont tirés de la femme.
Oui,
bien sûr. Physiquement.
Hein. Ah oui.
On sort tous du ventre d'une femme.
Oui.
Donc, là, mais lui, il renverse en disant, bah non, c'est la femme qui est tirée de l'homme. Bon, alors, est-ce qu'il raconte... Enfin, on voit bien que dès le début, il y a une espèce de distorsion de vouloir prendre le pouvoir.
Ouais.
Alors, on peut s'interroger sur pourquoi les hommes ont pris le pouvoir depuis des générations. C'est vrai qu'il y a une force physique, mais il y a aussi peut-être un manque. Le fait que la femme enfante, je pense que ça donne quand même quelque chose, une force qui est très importante, je pense. Et peut-être qu'il y a un manque des hommes, je ne sais pas.
Oui, faudrait...
Faudra approfondir la question.
Ouais, faudra approfondir la question avec des psys.
Je ne sais pas. Mais en tout cas...
Bon, donc Adam, ce n'est pas un bon modèle.
Non, Adam, ce n'est pas un bon modèle.
En plus, c'est pas un bon modèle parce que quand Dieu lui dit c'est pas bien ce que tu fais, il dit ouais mais c'est pas de ma faute, c'est la faute à elle.
Voilà.
Bon alors franchement, comme virilité, c'est pas génial. Hein,
Oui. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, je parlerai des modèles positifs.
Oui.
Parce qu'en fait, on parle souvent de la virilité, le virilisme, c'est l'homme fort,
ouais.
Musclé, sportif, magnifique et courageux.
Oui.
Et on s'aperçoit que dès le début, là, il est lâche.
Ouais, ouais.
Il est tout le contraire de ça.
Ah ouais.
Mais il est lâche parce qu'il veut s'en sortir, il veut dominer en
fait.
Et donc, il y a ce désir de dominer. Bon, Ève n'est pas terrible non plus, on va pas dire. Mais bon, là, il n'y en a pas un pour racheter l'autre, mais bon, faut ce désir
et
de domination.
Et puis alors, les enfants, c'est pas mieux.
C'est
hein.
pas mieux. Cain et Abel, on voit bien quand
bon,
même que.
Oui,
alors, voilà. Donc, enfin, finalement, dans toutes ces histoires, dans la Genèse, j'en ai trouvé un. Hein.
Bon, alors.
Alors, pour le coup, là, je veux dire, je me suis intéressée dans ces modèles d'hommes. Finalement, il est assez peu question, encore que, on va voir, de violence sexuelle, en fait. Parce que...
ouais.
Mais on s'aperçoit quand même que les contre-modèles nous montrent certaines douceurs,
ouais.
certaines écoutes,
ouais.
une patience.
Ouais.
Tout cela qui est, à mon avis, important pour que eh bien, la vie puisse advenir et que la réconciliation puisse venir. Parce que peut-être que la violence existe. Je pense que ça,
oui.
on n'y peut rien.
Oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire face à la violence ? Alors, soit on veut dominer l'autre et
ouais.
être encore plus violent, soit, eh bien, au contraire, on affronte la violence et on essaye, on fraye un chemin qui puisse la désamorcer,
oui.
entre guillemets.
Oui.
Et pour moi, le modèle, c'est Joseph, en fait. Alors, Joseph, pour resituer pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas Joseph, c'est un des fils de Jacob.
Voilà, donc c'est le Joseph de l'Ancien Testament.
C'est le Joseph de l'Ancien Testament.
D'accord.
C'est un des fils de Jacob. Alors lui, il a une vie... bon, évidemment, c'est un fils...
Il est un peu gâté, quand même, celui-là.
Ah oui, Jacob, son papa. Alors, c'est le fils de... Jacob, il a eu plein de femmes.
Oui.
Enfin, on voit que c'est quand même pas très... Il a trompé son frère. Enfin,
oui.
bon... C'est pas non plus un modèle parfait, mais enfin bon, il est humain. On va pas. C'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans la Bible. Il y a tous ces humains qui essayent de faire face à la vie et comment s'en sortir.
Donc Jacob, il a eu 12 fils, c'est ça ?
Il a eu 12 fils.
Bon.
Il a eu 12 fils avec 4 femmes.
Oui.
Bon, il a eu une première femme, Léa. Mais il était amoureux de la petite sœur, Rachel.
Oui.
Qui était stérile, mais finalement, elle a réussi à avoir deux fils. Donc Joseph et Benjamin. Et ce Joseph, c'est quand même le chouchou du papa.
Voilà.
Donc ça, ça nous interpelle.
Puis il est un peu casse-pied parce qu'il montre tout le temps aux frères qu'il est le chouchou du papa. Alors il se fait taper dessus par les frères, mais bon, on ne peut pas en vouloir aux frères aussi.
Non, mais moi je mets à la place des frères, oui. Mais bon, il est le chouchou du papa qui lui offre un très bel habit.
Oui, voilà.
Et puis en plus de ça, Joseph, il fait des rêves.
Oui.
Et alors il va raconter à ses frères qu'il a fait un rêve. Et l'interprétation du rêve, ça veut dire que ses frères vont s'incliner devant lui.
Oui.
Alors évidemment, les frères, ils ne sont pas contents. Les 10 frères, hein, parce que le petit Benjamin, je ne sais pas s'il est trop jeune ou quoi à cette époque-là, mais bon, il n'est pas dans le coup. Donc les frères décident de le faire disparaître.
Oui.
Voilà, donc de le tuer.
Oui.
Donc un jour ils partent, après Joseph les rejoint et donc décide de le tuer. Et puis finalement l'aîné dit bah non, faut pas le tuer. Et puis finalement il y en a un autre, Judas, qui intervient. Puis ils le mettent dans un trou, il descend au fond du trou. Et puis il aurait pu mourir au fond du trou. Mais il y a une caravane qui passe et il est amené comme esclave en Égypte.
Bon. Et c'est pour ça qu'il y aura après la tribu en Égypte.
Voilà.
Donc ça, c'est dans la
Genèse, ça doit être à partir du chapitre 37.
Donc pour tous ceux qui sont intéressés par cette histoire, vous reportez à Genèse. Donc,
37 à 50.
Voilà, 37 à 50.
Voilà.
Bon.
Qu'est-ce qu'il a,
notre Joseph, alors par rapport aux autres?
Pour l'instant, Joseph, il n'a pas grand-chose.
Non, il n'a pas grand-chose pour lui.
Il n'a pas grand-chose pour lui, mais d'un autre côté, Bon, il n'est ni bien ni mal, Joseph.
Ouais.
C'est pas de sa faute si c'est le chouchou de papa.
Oui.
Bon, c'est
de la faute de papa.
Oui, ouais. Et puis s'il fait des rêves comme ça, il aurait peut-être dû les garder pour lui, plutôt que s'en vanter auprès de ses frères. Enfin bon. Donc Joseph, il se retrouve en esclavage
en Égypte.
En Égypte, mais il s'en sort pas trop mal.
Mmh.
Il arrive chez Potiphar, qui est un haut placé, un haut dignitaire égyptien. Et là, il prend la place de numéro 2. Joseph est toujours numéro 2. Hein.
Ouais. Bon.
Il prend la place de numéro 2, il devient en fait, il est juste sous Potiphar, il s'occupe de toute la maison, tout le monde le respecte, c'est lui qui dirige tout, et voilà. Mais seulement Potiphar, il a une femme. Puis Joseph, il a aussi un grand défaut, c'est que c'est un bel homme. Il est beau.
Ah.
Et voilà. Et la femme de Potiphar a envie de coucher avec lui. Alors là, on est dans
Voilà.
Comme quoi, la Bible nous empêche de penser que les femmes sont très bonnes et les hommes sont très nuls. Et donc, voilà une femme qui n'est pas franchement reluisante, qui veut absolument coucher avec Joseph. Et comme Joseph refuse, à un moment donné, il arrive et puis elle lui tombe dessus et lui s'enfuit, mais elle garde le manteau.
Ah oui.
Alors après,
elle l'accuse de viol.
Voilà. Bon. Donc il se retrouve de nouveau en prison.
Oui.
Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, à ce moment-là, d'abord, Joseph, il s'est bien comporté. Il a refusé.
Oui.
Il a refusé. Voilà. Ouais. Mais pourtant, elle a insisté.
Oui.
Il a résisté.
Ouais, ouais.
C'est bien.
Ouais.
Enfin, c'est plutôt positif. Comme quoi, on n'est pas obligé de suivre ses pulsions tout de suite. Et ensuite, il ne l'accuse pas. Il pourrait dire... alors peut-être qu'il s'est dit ça sert à rien de l'accuser, personne ne me croira, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit rien, il se retrouve en prison.
Ouais.
Et là, en prison, alors on apprend plus tard que la prison ça appartient à Potiphar. Mais enfin bon, c'est assez compliqué par moment dans le récit. Et là, en prison, devient de nouveau numéro 2. Et c'est lui qui est responsable des prisonniers.
Ouais.
Voilà.
Puis après, il remonte en fait à chaque fois.
Oui, c'est ça. À chaque fois, il remonte.
Il est dans le trou et puis la première fois, il remonte.
Il remonte.
Enfin bon, il est sauvé. Et puis la deuxième fois, il est en prison.
Il est de nouveau sauvé. Et il est de nouveau numéro 2. Il remonte à chaque fois. C'est intéressant. Il remonte par ses qualités. Par sa manière dont il écoute et dont il interprète. Parce que c'est un grand interprétateur.
Interprète.
Oui.
Pourquoi
c'est un
mettre des tateurs
Oui, je ne sais pas.
Interprète.
C'est le rhume qui me...
Oui.
C'est un grand interprète. Et donc, au milieu de ce... Voilà. Et il se trouve qu'il est emprisonné avec les chansons et celui qui s'occupe du pain, je crois. Enfin bref. Du pharaon.
Oui.
Ah, ils ont des songes.
Oui, oui.
Ils ont des songes et qui se ressemblent, mais bon...
C'est les vaches maigres et les vaches grasses.
Non, ça, c'est après.
Ah bon?
Ça, c'est après. Eux, ils ont des songes. Je ne sais plus ce que c'est. Je me souviens plus très bien. Mais enfin, lisez, vous verrez ces songes. Et donc, il dit à l'un, écoute, c'était facile. Et dans quelques jours, tu vas être tué. Il dit à l'autre, dans quelques jours, tu vas sortir et tu vas de nouveau être au service du pharaon.
Mm.
Et c'est ce qui se passe.
Oui.
Et il dit à celui qui va être au service du pharaon, surtout, ne m'oublie pas.
Ouais, et l'autre l'oublie.
Et l'autre l'oublie.
Évidemment.
Voilà, donc il reste en prison un certain temps, c'est pas très drôle, on voit bien. Mais bon, il continue à se comporter bien. Et un jour, Pharaon a un songe.
Voilà, les vaches. Ce coup-là, c'est les vaches maigres.
Hein. Voilà, non, les vaches maigres qui viennent manger voilà, les vaches grasses, les épis maigres.
Voilà,
qui viennent,
voilà.
Mais prendre la place des épis, des beaux épis. Et alors, personne ne comprend. Il appelle tous ses conseillers, ses mages, enfin, toute la cour qu'il peut y avoir autour du pharaon. Personne ne sait. Et là, les chansons disent à Pharaon, bah écoute, peut-être bien que je connais quelqu'un qui peut interpréter.
Et là, il se rappelle de Joseph.
Donc Pharaon fait venir Joseph. Ouais. Et là, Joseph explique à Pharaon, bah écoute, c'est très simple, il va y avoir sept années
De bonnes récoltes.
Très bonnes récoltes. Et puis après, il va y avoir sept années de disette et de famine. Donc il faut mettre de côté, pendant les sept années de bonnes récoltes, de quoi tenir pendant les sept années de disette, de famine. Et alors Pharaon lui dit, ben oui, mais qui est-ce qui va s'occuper de ça? Alors Joseph lui dit, ben quelqu'un qui sait faire. Il dit, ben ça sera toi. Donc en fait, Joseph se retrouve presque premier ministre du Pharaon et responsable en tout cas de tout ce blé, de tout ce qu'il peut y avoir à mettre de côté pendant les sept années. Voilà. Et au bout de sept ans, arrive la famine, la disette, qui arrive même en Canaan, donc
chez
Jacob et les frères
qui vont venir.
Et voilà. Et donc Jacob dit à ses fils, aux dix fils, il dit je garde Benjamin parce que il en a déjà perdu un, il était très triste. Il garde le petit et il envoie les dix frères pour chercher du blé.
Voilà. Oui, oui, oui.
Et les dix frères arrivent en Égypte.
Et ils le reconnaissent.
Pas du tout.
Non.
Mais lui les reconnaît. Lui, il les reconnaît. Donc là, il les reconnaît. Alors on voit. Et donc, il leur donne du blé. Et il leur dit, je vais en garder un. Donc il garde Siméon, si mes souvenirs sont bons. Et vous allez retourner chez votre père. Et ah oui, parce que il les accuse d'espionnage. Il dit, non, on n'espionne pas, on est venu à 10. Si on n'en serait pas venu à 10, si on était des espions, 10, on ne va pas priver notre père de 10 enfants d'un coup. Il dit, je vous garde tous. Il les met en prison pendant 3 jours.
Il se venge un peu quand même.
Il se venge un peu et en même temps, on peut en avoir une autre lecture. On peut avoir cette lecture, la vengeance. On peut en avoir une autre lecture, une lecture de où il essaye de leur faire comprendre ce que lui a vécu.
Ouais.
Donc il les met en prison, comme lui il a été dans un trou.
Ouais.
Pendant 3 jours, au bout de 3 jours ils ressortent, ils n'en gardent qu'un, ils repartent chez le père.
Oui.
Et il leur dit...
Ramenez le père.
Ramenez le fils, le fils le plus jeune, parce que je ne vous croirai et je ne rendrai l'autre fils que si le Benjamin revient avec vous. Là, les frères, ils parlent entre eux, ils disent mais on ne peut pas faire ça à notre père. Alors il y a tout un subterfuge, parce qu'en fait, visiblement, apparemment, il y a un... Depuis le début, il y a un traducteur, puisque Joseph est censé parler égyptien et hébreu. Et lui, il comprend très bien l'hébreu, donc il entend ses frères dire la douleur de leur père. Et du coup, il pleure. Ça, c'est intéressant. Il pleure.
Ah ouais.
Voilà. Il y a beaucoup de pleurs, en fait, dans cette histoire. Et ça, c'est pas très masculin.
Ouais.
Hein, un homme, il pleure pas.
Bah non.
Il est fort, il est important, il pleure pas. Ça, c'est pas du tout masculin. Et donc, les frères repartent. Ils arrivent chez eux. Alors évidemment,
Jacob.
Jacob, merci. Je suis un peu perdue au milieu de tous ces personnages.
Il y a de quoi.
Jacob est pas content. Il pense qu'ils ont vendu Siméon.
Oui.
Parce qu'ils reviennent non seulement avec du blé, mais en plus Joseph leur a rendu l'argent qu'ils avaient apporté.
Oui.
Donc voilà, ils lui disent, si on veut récupérer Siméon, faut amener Benjamin.
Oui.
Judas il dit non pas question hein. Moi je garde mon petit Benjamin et j'ai la main sur lui. On voit quand même un père très très protecteur, mais bon après tout pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on pourrait s'interroger dans l'éducation sur la place de Jacob et ce qu'il a fait de ses fils et de cette fratrie qui est complètement désunie.
Oui.
Qui est quand même
est-ce qu'à votre avis le fait qu'ils soient pas de la même mère, est-ce que ça joue, parce que on voit les deux donc qui sont de
Rachel,
donc qui sont favoris.
Oui.
Joseph et puis Benjamin.
En tout cas, il y a une préférence du père pour ses enfants.
Oui.
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une fratrie qui est complètement désunie au début.
Ouais.
C'est vraiment la catastrophe au sein de ses frères, parce qu'on parle souvent de la fraternité dans la Bible. Bah, si on prend les... Ouais, pas terrible.
Oui, c'est pas terrible la fraternité dans la Bible.
En tout cas, là, pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Mmh. Est-ce que ça vient du père? Est-ce que ça vient... Bon, en tout cas, on ne sait pas, mais ils sont toujours assez... ils ont laissé Siméon quand même, hein, je veux dire. Ouais. Bon, d'un autre côté, ils n'avaient pas vraiment le choix.
Non.
Mais donc voilà, donc on a... Ouais.
Mais Joseph, là, qu'est-ce qu'il a comme qualité à ce moment-là? Enfin bon...
Moi, Joseph, je pense qu'il a une sorte... il les éduque, en fait, quelque part. Par cette manière, il les éduque à une sans leur dire, il leur fait vivre toute la douleur qu'il a pu vivre.
Ouais.
Et petit à petit, déjà là, on s'aperçoit, ils s'aperçoivent de la douleur du père.
Ouais.
Donc, ils ne veulent pas en rajouter. Et là, je pense que... Parce que la première fois, ils s'en fichaient de la douleur du père. Hein.
Oui, oui, oui.
Ouais. Tandis que là, ils s'en fichent. Et finalement, Il les éduque. C'est une sorte de maïotique. Il essaye de les faire sortir de leur violence à eux. Parce qu'en fait, il y a d'autres épisodes entre-temps où ils ne sont quand même pas tout à fait exemplaires. Et de les mener sur un chemin de réconciliation. Souvent, on voit ça en disant « Joseph, il n'est pas sympa. » Et finalement, nous, c'est vrai que protestants, catholiques, il aurait dû leur pardonner. Et puis, c'était dès qu'il les a vus et leur dire « Je vous aime, vous êtes mes frères, vous êtes pardonnés. »
Non, parce que s'il leur avait pardonné comme ça, il ne les aurait pas mis sur le chemin, justement, de la conversion, d'une certaine façon. Il ne faut pas pardonner trop tôt.
Mais je suis d'accord, il ne faut pas pardonner trop tôt. Et parfois, il faut... d'ailleurs, on le voit, et j'en parlerai tout à l'heure, le Christ n'est pas toujours très sympathique.
Oui.
Il bouscule les gens, il demande quand même qu'on essaye de sortir de tout ça.
Oui, parce que pardonner à des salauds, c'est les laisser être salauds aussi.
Voilà, ce qui est pas mal, c'est qu'ils puissent reconnaître qu'ils soient des salauds.
Voilà, à partir de ce moment-là, on peut pardonner. Enfin bon, je suis peut-être un peu dure avec le pardon, mais bon, c'est en tout cas...
Et puis surtout, dans le pardon, ce qui est important, c'est que... ça puisse faire grandir l'autre.
Ben voilà.
Et je pense qu'ils n'auraient rien compris. Il n'y a pas eu de leçon, entre guillemets.
Ouais.
J'aime pas trop le mot, mais ils n'auraient pas compris. Et je pense qu'on a beaucoup reproché en disant Joseph. Mais je pense que Joseph, il a la bonne voie, là.
Ouais.
Tout se passe pas exactement comme il veut, puisqu'en fait, Judas refuse de donner Benjamin. Il dit, on a du blé, on a de l'argent, on reste ici. Et j'ai déjà perdu un fils, là, je suis en train d'en perdre un deuxième. Voilà, il n'est pas trop mort, il est en prison, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, on reste comme ça.
Jacob, donc.
Jacob.
Oui, Jacob.
Jacob,
oui.
Ouais, merci de me reprendre.
voilà.
Jacob, donc Jacob veut garder son petit Benjamin.
Oui.
Et puis le temps passe et la disette revient, continue, et ils ont de nouveau plus de blé. Donc là, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors les frères disent, il faut emmener Benjamin. Ruben dit non. Il dit à son père, écoute, on va y aller avec Benjamin. Si quelquefois il revient pas, tu pourras tuer mes deux fils. Comme si
c'est très curieux.
On voit bien qu'ils sont encore dans une espèce de violence, de
non-compréhension.
Comme si le fait de tuer deux petits enfants pouvait consoler un père de la perte de son fils. Donc on voit bien que c'est tout ça. On voit qu'on est encore dans une espèce de cycle de violence qui s'enferme un peu sur lui. Ruben disparaît, puis finalement un peu de temps passe, et puis c'est Judas qui va ramener, puis le père, de toute façon, il n'y a plus à manger pour personne. Donc, il faut bien qu'il lâche Benjamin. Donc, il lâche Benjamin. Benjamin repart avec tout le monde. Ils vont retrouver Joseph.
Ouais.
Joseph voit Benjamin.
Il pleure. Oui.
Voilà. Et il est content de voir son petit frère. Ils ne l'ont toujours pas reconnu.
Non.
Et donc, ils sont là, tous, en Égypte. Le père n'est pas là, il est resté.
Hein? Il n'a pas tué les deux petits-enfants, quand même.
Non, il n'a pas tué les deux petits-enfants. Non, mais de toute façon, c'est évacué, cette histoire. Jacob refuse, quand même. Jacob, un peu plus humain que...
Oui.
Jacob refuse. Et donc, ils arrivent là-bas. Et en fait, Judas dit, prends-moi moi plutôt que Benjamin. Tout ça est assez fort. Il y a une histoire de... Donc, ils les laissent repartir tous ensemble, finalement.
Ouais.
Très bien.
Ouais.
vers le père, mais en fait, il cache une coupe. Enfin, il y a tout un stratagème nouveau.
Oui.
Et de nouveau, Benjamin donc, est arrêté, alors qu'il a pu repartir, en disant qu'il avait volé la coupe.
Oui.
Voilà. Et là, la suite de...
Alors là, c'était une ruse, donc, de Joseph.
Oui, de nouveau, c'est une ruse de Joseph qui a mis la coupe.
Mais là, ça fait un peu féminin, comme...
Ben voilà, oui.
Ça fait féminin, de planquer la coupe pour faire accuser l'autre, pour les faire revenir sur leur...
Ils reviennent.
Oui,
parce que pour l'instant, il n'y a pas de réconciliation, ils repartent.
Ouais.
Mais Joseph, c'est pas ce qu'il cherche, en fait.
Ouais.
Ils repartent. Donc là, ils reviennent. Et là, c'est vraiment... les frères veulent pas que le père ait père dans de nouveau Benjamin. Et là, il les entend, il en comprend. Judas veut se mettre à sa place. Il comprend qu'en fait, que ses frères ont compris.
Ouais.
Ont compris toute la douleur. Parce qu'à chaque fois, ils parlent.
Ouais.
Ils parlent de ce frère qui a été englouti. Bon, on va passer vite au suivant, d'ailleurs. Qui a été englouti. Et là, il y a la réconciliation, tout le monde pleure. Et je trouve que cette figure de Joseph, alors qu'il parfois peut paraître un peu sournoise,
ouais.
un peu... En fait, il a un grand discernement, c'est-à-dire que... Et ça, cette qualité de discernement, elle est importante, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et on voit que dans d'autres personnages bibliques masculins n'ont pas cette
alors,
qualité de discernement.
Alors, on va voir d'autres personnages bibliques masculins. On va faire une pause musicale.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en où je serai poli pour la télé. Mais va te faire en
Alors maintenant, on va changer de Joseph. On est toujours dans les modèles masculins. On est toujours et on va prendre un autre Joseph. Alors là, c'est le Joseph que tout le monde connaît. C'est le Joseph de Marie, qui est le modèle malheureusement des cocus, des qu'on considère comme un pauvre gars parce qu'il élève l'enfant
d'un autre. Ou d'un autre, oui.
Oui, enfin.
Bon, oui, on va passer d'un Joseph à l'autre. Donc, le premier Joseph nous a montré qu'on peut, par la douceur, par le discernement, le temps et tout ça, arriver au pardon, à la réconciliation d'une fratrie qui était désunie. Ça, je pense que c'est important, même dans notre existence. Voilà, le modèle d'un homme qui arrive à la paix, non
ouais.
pas par la guerre et la violence,
ouais.
mais par un chemin de réconciliation.
Ouais.
Et je pense que ça, on est... en dehors des valeurs viriles qu'on trouve partout. Alors l'autre Joseph aussi, on est complètement en dehors des valeurs viriles, puisque en fait, il va accepter une femme qui est enceinte, il ne sait pas de qui, bon,
oui.
l'ange lui a dit. Et non seulement il l'accepte, mais du coup il la sauve, il sauve sa vie, il sauve la vie de l'enfant. Et on voit bien que cet homme, souvent je ris parce qu'on parle de la virginité de la Vierge, mais Joseph aussi il est vierge, puisqu'en fait il la prend chez elle, visiblement il ne couche pas avec elle, en tout cas pas avant la naissance, après ils font ce qu'ils veulent.
Oui.
Mais, donc on a là un homme qui sait tout à fait accueillir cette femme qui est dans la difficulté et contre la société, parce qu'il pouvait tout à fait, elle aurait peut-être pas été lapidée, parce que je suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup de lapidation.
Mais ça se faisait plus beaucoup.
Ça se faisait pas beaucoup, mais elle aurait été mise au bon de la société, et finalement l'histoire a été complètement différente. Donc on a finalement, moi je trouve qu'il a beaucoup de qualités, Joseph. Puis après il va protéger. Alors on est dans un monde patriarcal, donc il protège la femme et l'enfant.
Oui.
Donc il les emmène en Égypte, au moment où il a beaucoup de songes aussi, lui. Il y a beaucoup. En réalité, il y a beaucoup de parallèles avec le premier Joseph. Hein.
Ouais.
Et il a beaucoup de songes et il sait qu'il faut qu'il parte pour protéger l'enfant et qu'il revienne aussi. Donc là, on a un modèle tout à fait intéressant. Et j'aime à penser, souvent on parle de la généalogie de Jésus, mais c'est avant tout la généalogie de Joseph.
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Donc en fait, dans cette généalogie, il y a plein de choses bien, il y a plein de choses mal, il y a des femmes, il y a des... Et je trouve qu'il est... Il est héritier de ce qu'il y a de bon dans cette généalogie.
Et c'est marrant parce que justement, on donne la généalogie de Jésus tout en disant que Joseph n'est pas le père. Et pourtant, on dit que Jésus est le descendant de Joseph, finalement.
Voilà. Et il fait quelque chose qui est tout à fait important, encore aujourd'hui, dans notre société. Et c'est qu'en fait, il adopte et il devient vraiment père par adoption. Et je pense qu'on devient parent par adoption aussi. Je pense que c'est pareil, on n'est pas parent, on le devient. On le devient quand l'enfant est là et qu'on l'adopte. C'est, que ça soit son enfant biologique ou un autre enfant.
Oui, oui.
Voilà, donc il adopte cet enfant et il devient complètement père à ce moment-là. Et donc ça, il est capable d'adopter un enfant qui n'est pas le sien. Et on voit bien que dans l'Ancien Testament, je vous renvoie à Genèse 38, les hommes n'avaient pas du tout envie de prendre les enfants des autres.
Oui, 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 oui.
Voilà, donc là, il est en rupture. Donc, Joseph, ça vous pouvez aller voir un peu ce qui se passe. Hein, c'est raconté surtout chez Matthieu.
Oui.
Parce que le Joseph, chez Luc, il est pratiquement inexistant.
Ouais.
C'est surtout Marie qui est mise en avant. Et mais Joseph, il disparaît.
Mais il disparaît complètement.
Il disparaît. Bah, finalement, il laisse la place à son fils qui va pouvoir grandir, s'épanouir. Peut-être que c'est ça aussi le rôle du parent.
Ah oui.
On ne sait pas trop ce qui se passe hein, entre eux. Et donc, il disparaît. Ce qui m'a un peu intéressé, c'est que...
Alors, le modèle, voilà. Qu'est-ce que... Parce que là, il faut vraiment conclure.
Alors, je vais conclure très vite. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, à la croix, au pied de la croix, après, il y a toutes ces images qui ne sont pas forcément dans la Bible, des Pietà.
Oui.
De cette femme qui pleure l'enfant.
Oui.
Et cette femme pleure l'enfant comme toutes les femmes pleurent leurs enfants. Ce qui est intéressant, c'est que Joseph, il ne pleure pas, il ne nous dit rien. Et là, je pense qu'il y a vraiment un manque.
Ouais.
Il y a un manque, c'est qu'en fait, les hommes peuvent pleurer.
Ouais.
Et d'ailleurs, le verset le plus court de la Bible, qui se trouve dans Jean 11, je ne sais plus combien.
11:35,
merci.
C'est pas passé, parce que je l'ai écrit.
Je l'avais envoyé dans les notes avant.
Voilà.
Jean 11:35, le verset le plus court de la Bible, nous dit « Jésus pleure au moment de la mort de Lazare ». Et ce serait pour une autre émission.
Oui.
C'est de voir comment Jésus est complètement le modèle contraire du virilisme. Tout à fait contraire. Et je pense que là, on a un modèle tout à fait extraordinaire, mais ça demanderait vraiment une autre émission.
Eh bien, on en parlera. Alors, à retenir que dans une société chrétienne, ça serait bien que, enfin, dite chrétienne, ça serait bien que les hommes se souviennent que le Christ lui-même a pleuré. Et donc, on s'arrête là-dessus. Et je remercie donc Florence Blondon. Et puis, je remercie nos auditeurs. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine. Et vous pouvez envoyer vos réactions à Un protestant peut en cacher un autre, même si l'émission s'est aimée anathème. Un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Je vous remercie.
Merci, au revoir.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.